accent d'Europe, Alexis Bédu.
Bonjour à tous. Accoucher d'un enfant, c'est une étape pour les parents et une épreuve pour les mamans. En Europe, l'accouchement n'est pas vécu de la même façon selon les pays. L'accessibilité aux soins est différente. Les pratiques sont différentes également. Par exemple, en Allemagne, 2% des accouchements se font hors des hôpitaux, soit à la maison, soit en maison de naissance. C'est deux fois plus qu'en France. Autre distinction dans les hôpitaux allemands, l'approche est souvent moins médicalisée que dans l'Hexagone. Reportage à Berlin de Déborah Berlioz.
La grossesse et la maternité sont le théâtre de grandes différences culturelles, même entre deux pays aussi proches que la France et l'Allemagne. Et Aga en a fait l'expérience. Polonaise, elle s'est mariée à un Français et a eu leur premier enfant à Paris. Puis le couple a déménagé à Berlin, où Aga a donné naissance à ses jumeaux l'année dernière. Peu encline à se passer de personnel médical, la jeune femme a toujours choisi des hôpitaux classiques pour accoucher. À Berlin, elle a ainsi opté pour la Charité. Plus de 5000 bébés y voient le jour chaque année. Elle s'attendait donc à un environnement similaire à celui de son premier accouchement, mais elle a été agréablement surprise.
Ils ont fait tout pour qu'on se sente plus comme à la maison. La pièce était claire, le lit d'accouchement était très confortable. En France, c'était vraiment, pour le coup, j'ai accouché par voix basse également, mais j'avais l'impression d'être dans une salle d'opération. Donc je pense qu'on se sentit bien médicalisé en France. J'avais l'impression que je contrôle rien du tout.
Cette idée de contrôle est fondamentale pour Christine Brun. Elle dirige une maison de naissance dans le quartier de Charlottenburg à Berlin.
C'était une des grandes revendications du mouvement féministe allemand. Nous, les femmes, nous voulions maîtriser notre propre accouchement. Ce processus très intime ne devait pas être contrôlé de l'extérieur.
Les féministes ont donc créé les maisons de naissance comme celle dirigée par Christine Brun, fondée en 1987. Ici, aucun docteur, aucun anesthésiste. Seules les sages-femmes accompagnent la naissance. Quant aux salles d'accouchement, elles ressemblent à de confortables chambres d'hôtel. Au lieu d'être branchées à des moniteurs, les femmes peuvent se déplacer librement, tester différentes positions et accoucher dans des baignoires. Évidemment, les grossesses à risque ne sont pas prises en charge ici. Christine Brun reconnaît qu'un environnement médicalisé est parfois nécessaire. Toutefois, il ne faut pas surestimer son importance.
Le taux de mortalité des femmes et des enfants lors de l'accouchement a baissé il y a longtemps grâce au progrès de l'hygiène. Mais les évolutions des 30 dernières années, comme le monitoring fœtal et toutes ces technologies, elles n'ont absolument pas fait reculer la mortalité des mères et des enfants. C'est n'importe quoi.
300 bébés naissent dans cette maison de naissance chaque année. À Berlin, on compte 6 établissements de ce genre et près de 4% des naissances se font dans ces maisons ou à domicile. Ce chiffre n'est pas très haut, mais les maisons de naissance ont influencé le monde médical. Baignoires, lianes pour s'accrocher et lits d'accouchement modulables sont ainsi arrivés dans les cliniques. Quant à l'anesthésie péridurale, seul un quart des femmes y auraient recours, alors qu'en France, c'est presque devenu la norme. Alors certes, une péridurale peut avoir des effets secondaires. Toutefois, le refus de cette anesthésie peut virer au dogmatisme, selon Marie. Cette jeune franco-allemande a suivi une formation de sage-femme en Allemagne et a exercé des deux côtés du Rhin. Si toutes ses collègues ne sont pas contre la péridurale, elle a déjà été choquée par certains discours.
Une des collègues qui m'a dit qu'en cours de prépa à l'accouchement, elle disait quand même à ses mamans qu'elles abandonnaient un peu leur bébé quand elles avaient une péridurale parce qu'elles accompagnaient pas le bébé alors que lui, il avait des douleurs et qu'elles, du coup, n'en avaient plus et donc elles se distanciaient de leur bébé, quoi.
Cette histoire est révélatrice d'une certaine conception de la maternité très présente en Allemagne. Ici, on est maman avant tout, quitte à devoir se sacrifier pour son enfant. Cela se retrouve aussi dans l'approche de l'allaitement. La pression sur les femmes est énorme et celles qui refusent de donner le sein sont mal vues. Même les douleurs ne semblent pas justifiées de passer au biberon. Mais la médaille a un revers positif, selon Marie. En Allemagne, les femmes qui veulent allaiter sont souvent mieux accompagnées, et ce, dès la naissance.
Les bébés, ils doivent avoir tété en salle de naissance. C'est un must, ils n'y arrivent pas. On exprime le lait à la petite cuillère et on leur donne. Et nous, c'est nous les sages-femmes qui le faisons, quoi. C'est pas quelqu'un qui vient en plus. Alors que c'est vrai qu'en France, on s'en foutait. Quand la salle de naissance était pleine, que t'osais faire une prise de sein parce que pour toi, c'était important de lancer le truc. Bah, t'avais quand même des collègues qui disent « Mais pourquoi tu passes un quart d'heure avec elle alors que genre il y a 3 femmes qui attendent, quoi ?»
Ainsi, 87% des bébés sont allaités après la naissance contre 67% en France. À 6 mois, cette proportion est toujours entre 40 et 50% ici. Malgré ce visible penchant pour le naturel, le taux de césarienne en Allemagne est toujours à 30%, l'un des plus hauts d'Europe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, rien ne justifie un taux de césarienne supérieur à 10 ou 15%.
En Croatie, la parole se libère concernant les violences obstétricales. Il y a quelques mois, l'ONG Roda a lancé une grande campagne de sensibilisation pour briser ce tabou dans un pays toujours très catholique. Depuis, les témoignages de femmes se multiplient et ils sont bouleversants. Curetage sans anesthésie, épisiotomie sans consentement, elles y racontent des expériences gynécologiques traumatisantes. L'écho est tel que les Nations Unies ont demandé aux autorités croates de réagir. Simon Rico.
Prekinimo Šutnju, brisons le silence. La campagne lancée sur les réseaux sociaux à l'automne dernier par l'association Roda a fait couler beaucoup d'encre en Croatie. Il faut dire que les témoignages sont édifiants. Les femmes racontent les interventions chirurgicales sans anesthésie, les insultes, les menaces et les humiliations, les médecins qui refusent de leur donner des antalgiques. À l'origine de cette campagne choc, les révélations d'une députée de l'opposition, Ivana Ninčević-Lesandrić, qui, après une fausse couche, a subi un curetage à l'hôpital de Split sans qu'on lui ait proposé d'anesthésie. En moins de 3 jours, l'association Roda, qui se bat depuis 2001 pour une grossesse, une parentalité et une enfance digne, a recueilli plus de 400 témoignages de femmes ayant subi des mauvais traitements dans les hôpitaux publics croates. Ils montrent que, quel que soit leur milieu social, en Croatie, toutes les femmes sont concernées par les violences obstétricales. Quelques mois plus tard, à la fin du mois de février 2019, l'ONU a publié un communiqué s'indignant de ces infractions aux droits des femmes et demandé aux autorités de Zagreb d'adopter des mesures visant à les prévenir et à punir les coupables. Et pourtant, plusieurs dirigeants politiques et directeurs d'institutions de santé ont réfuté ces accusations de maltraitance, allant jusqu'à mettre en doute la véracité de ces témoignages, il est vrai, souvent anonymes. C'est oublier combien il peut être difficile d'évoquer publiquement ces sujets qui touchent à l'intimité. Même l'intelligence féminine a été remise en question, s'offusque l'ONU, apportant son soutien à ce mouvement qui a vite été qualifié de MeToo croate. À la suite de ce coup de semonce, le gouvernement croate s'était vite engagé à mener une enquête, à en publier les résultats et à établir un plan d'action national pour la santé des femmes, mais pour le moment, rien n'a encore été annoncé. Le parti nationaliste conservateur au pouvoir est proche de l'Église catholique et des mouvements pro-life qui ont le vent en poupe depuis plusieurs années en Croatie.
C'est, je leur dis, faites une césarienne, parce qu'en fait j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Et là, la gynéco dit, bah non. Non, non, c'est bon, on a presque fini. Elle s'en fout, en fait, elle regarde pas en haut. Elle fait les garagistes. C'était... C'était une scène de massacre, quoi.
Ce témoignage édifiant, c'est celui d'une jeune Française. Il est extrait du documentaire « Tu enfanteras dans la douleur », dernier film de la réalisatrice Ovidie. Il y est justement question des violences obstétricales. Des femmes racontent leur accouchement cauchemardesque, face caméra, en plan serré. Catherine Roland a rencontré Ovidie pour Accent d'Europe.
Moi, j'ai souhaité mettre, dès les premières secondes du film, des extraits de ces témoignages-là. Ce sont des témoignages assez épurés, on n'est pas distrait par d'autres choses autour, et on se rend bien compte, à travers ces témoignages-là, que ces femmes-là, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Et quand on les a comme ça, face à nous, on ne peut plus douter de leurs paroles. On a douté de leurs paroles quand cette parole, elle était écrite sur les réseaux sociaux en disant « oui, bon, en gros, ces bonnes femmes, elles exagèrent un peu, quoi ». Mais quand on les a face à nous comme ça, on ne peut plus nier cette souffrance-là, effectivement. Il y en a une qui dit « c'est une douleur tellement atroce, c'est pas qu'on a peur de mourir, c'est qu'on préférerait mourir plutôt que de sentir ça ». Et effectivement, ce dont elle témoigne, c'est pas juste une histoire de douleur, c'est des histoires d'infantilisation, c'est des histoires d'actes médicaux réalisés sans consentement. Il faut bien comprendre que c'est pas l'acte médical en soi qui est une violence obstétricale, c'est pas par exemple la césarienne ou l'épisiotomie, c'est le fait qu'on leur demande pas leur consentement, c'est le fait que ce soit réalisé sans leur accord, que parfois elles supplient, elles disent arrêtez, arrêtez. Il y a certains témoignages qui sont vraiment vraiment durs à entendre, l'une d'elles qui raconte par exemple qu'on lui maintient de force les jambes dans les étriers pendant qu'on lui fait une extraction au forceps, qu'elle veut partir, qu'elle dit arrêtez, enfin, et de fait elle le vit comme une sorte de viol collectif. Voilà, elle a plusieurs personnes autour d'elle qui plaquent les jambes, qui la maintiennent, et cette pénétration finalement de cet objet qui est le forceps, qui est une pénétration non consentie, même si en face, évidemment que le gynéco, il sexualise pas cet acte-là. Évidemment que pour le gynéco, c'est un acte purement mécanique. Mais pour elle, évidemment que ça va être perçu comme quelque chose d'éminemment sexuel et intrusif, et que donc ça peut être vécu comme une violence sexuelle.
Les femmes refusent les actes médicaux inutiles pendant l'accouchement. Un tiers des accouchements se termine par l'usage de spatules, ventouses ou forceps. Oui, un tiers. Pour l'OMS, il s'agit d'une pratique fréquemment utilisée à tort. De nombreuses femmes témoignent avoir subi des césariennes.
Alors, ce n'est pas qu'un problème français, même si ça a été mis en exergue notamment par la secrétaire d'État Madeleine Schiappa, qui elle-même a témoigné de son accouchement. Le problème est également italien. D'ailleurs, vous donnez la parole à Elena Skoko, qui, elle, s'est battue justement pour que on reconnaisse aussi la souffrance des femmes.
Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé en Italie. C'est-à-dire qu'il y a eu une association contre les violences obstétricales qui s'est montée et il y a eu le souhait de porter devant le Parlement italien un projet de loi contre ces violences. Et à ce moment-là, on leur a dit, mais vous savez, pour porter un projet de loi, il faut quand même que vous puissiez objectiver la situation, que vous puissiez donner des chiffres. Elles ont dit, ok, qu'à cela ne tienne, on va faire appel à un institut de sondage, on va faire une gigantesque étude qu'elles ont financée elles-mêmes sur les violences obstétricales. Et là, on s'est rendu compte que les chiffres, ils étaient même encore pires qu'en France.
Mais c'est une femme sur cinq.
C'est colossal. Vraiment, c'est colossal. Et à partir du moment où elles ont mis en place cette étude, à partir du moment où elles sont parties au front, en disant, voilà, maintenant qu'on a les chiffres, on voudrait vraiment déposer ce projet de loi qui a été refusé, hein, par ailleurs, ce qu'elles expliquent, c'est qu'elles ont reçu des lettres de menaces légales, hein, pas de menaces physiques, mais des lettres de menaces de la part de certains soignants qui leur demandaient d'arrêter, des institutions de soignants qui leur disaient, bon, maintenant, vous arrêtez vos conneries. Je dirais, c'est dans les pays catholiques, peut-être qu'il y a le plus de problèmes aussi. Alors, est-ce que ça vient de cette injonction biblique, cette prophétie biblique, tu enfanteras dans la douleur, ou est-ce que ça vient aussi de notre rapport à la sexualité, au corps des femmes, etc. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont envisageables. On se rend compte, par exemple, que concernant l'accouchement à domicile aux Pays-Bas, elles sont 30% à accoucher chez elles. En France, elles sont à peine 1%, et celles qui accouchent chez elles, on les menace. Parfois, on leur dit, si vous faites ça chez vous, on va vous dénoncer à la PMI. Pourtant, accompagnées d'une sage-femme, hein. Les sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile, il y a un peu une chasse aux sorcières. Enfin, on voit que c'est... Il y a vraiment de grosses disparités d'un pays à un autre.
La réalisatrice Ovidie au micro de Catherine Roland. Son documentaire « Tu enfanteras dans la douleur » est toujours disponible sur arte.fr. Une exposition peu ordinaire aux Pays-Bas, un musée réputé de Bois-le-Duc propose une rétrospective sur le design du Troisième Reich. Des portraits d'Hitler, des casques de SS, 275 objets de design nazi sont exposés et cela suscite la polémique. Certains détracteurs de l'exposition s'interrogent sur le message véhiculé par une telle initiative. Reportage d'Antoine Moutot.
Des croix gammées partout, la fameuse coccinelle de Volkswagen, de nombreux portraits d'Adolf Hitler et même un Mein Kampf de luxe. La propagande nazie est omniprésente ici, des petits objets répandus aux raretés, comme celle que nous montre avec fierté Man Leo, porte-parole du musée.
Des périodes.
Ce que vous voyez derrière nous, c'est une commode conçue par Albert Speer pour le bureau d'Hitler. Ça se trouvait vraiment dans son bureau. Comme ce meuble, tout à la nouvelle chancellerie était gigantesque. Ce design devait montrer à quel point les nazis étaient puissants.
Au total, 275 objets, en grande partie prêtés par des musées allemands, sont exposés ici, au musée du design de Bois-le-Duc. L'exposition peut surprendre et interroge notamment sur le bon ou mauvais goût dont ont fait preuve les organisateurs, à l'image de l'accoutrement étrange de la porte-parole, vêtue d'une robe à pois, d'un gilet noir et d'un béret rappelant les années 40. Man Leo défend bec et ongles l'exposition.
La période du Troisième Reich est très peu décrite dans les livres de l'histoire du design. Pour nous, c'est important de montrer la machine de séduction des nazis, mais aussi la façon dont les objets nous influencent.
Un argument qui passe mal chez la jeunesse communiste néerlandaise. Elle demande l'arrêt pur et simple de l'exposition. Saitano Antunes est l'un des porte-parole du mouvement.
Cette exposition montre trop, entre guillemets, les belles choses faites par les nazis. Ça donne trop à penser que les nazis avaient peut-être de bonnes idées.
Et c'est loin d'être la seule chose qui choque Saitano Antunes.
L'un des autres problèmes, c'est le site du musée. Il se trouve à seulement 10 mètres d'un mémorial aux victimes juives de l'Holocauste. C'est vraiment choquant et gratuit.
D'ailleurs, les jeunes communistes ne sont pas les seuls à se poser des questions sur le bien fondé de cette exposition. Même si elles ne demandent pas l'interdiction de la rétrospective, plusieurs associations juives appellent à la prudence. C'est le cas aussi d'Aaron Vriller de la fondation Sidi.
Il est absolument nécessaire qu'on montre dans cette exposition que le design a participé à la propagande nazie.
Le musée a beau avoir placé ça et là des éléments comme l'étoile jaune imposée aux Juifs sous le Troisième Reich, en réalité ce n'est pas du tout central dans l'exposition et il est tout à fait possible d'en faire le tour sans y prêter attention ou s'en apercevoir. Aaron Frieler, lui, craint également une récupération de l'événement.
C'est important que cette exposition ne soit pas utilisée par l'extrême droite et les néo-nazis pour justifier leur idéologie.
Pour éviter la récupération par des groupes néo-nazis, le musée du design de Bois-le-Duc interdit les selfies et photos. Les billets d'entrée, eux, se vendent exclusivement en ligne pour réguler l'afflux de visiteurs.
Bon, en plein dans le mille, je l'ai, mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment que ça se fait? Bon, en plein dans le mille, oh, mais qu'est-ce que ce chat faisait là?
En France, la chasse est ouverte, c'est le cas dans la quasi-totalité du pays depuis dimanche dernier. La pratique de la chasse est répandue dans l'Hexagone et comme chaque année, le retour des chasseurs dans les campagnes ravive la polémique sur leur impact environnemental. Les pro-chasses estiment que cette activité maintient l'équilibre naturel de la population animale. Pour d'autres, elle serait un facteur de recul de la biodiversité. 4 Français sur 5 sont d'ailleurs partisans d'une réglementation plus stricte. Alors faisons un point sur les différentes règles et les pratiques de la chasse dans les pays d'Europe avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Alexis.
Les Français sont-ils les seuls en Europe à se déclarer plutôt hostiles à la chasse?
Non, pour ne prendre que les grands pays voisins, une majorité d'Italiens et d'Espagnols se dit sinon hostile à cette pratique, mais du moins favorable à un encadrement beaucoup plus strict. En fait, seule l'opinion allemande se distingue, 80% des citoyens estimant la chasse nécessaire à la préservation de la nature.
Et les Allemands chassent-ils plus que les autres?
Non, au contraire. Ils ne sont que 380 000 titulaires d'un permis de chasse, très loin derrière les Français, qui sont près de 1 200 000 à disposer d'un permis. C'est un record en Europe. En fait, l'opinion des Allemands à l'égard de la chasse reflète le fait qu'outre-Rhin, les chasseurs sont plus professionnels, mieux formés du fait d'un examen du permis de chasse très pointu, nécessitant une formation de plusieurs mois.
Alors Daniel, la chasse est-elle moins encadrée ailleurs?
En France, comme dans les pays du Sud, l'obtention du permis de chasse est plus simple et moins coûteuse. 46 euros en France contre 300 euros en Allemagne. Mais ce permis permet automatiquement l'acquisition d'une arme de chasse, alors qu'en Italie et en Espagne, il faut en plus disposer d'un permis de port d'armes. Il en va de même en Angleterre, mais l'autorisation de chasser n'est qu'un simple droit à acquitter, moyennant environ 34 euros par an.
Concernant les périodes de chasse, elles sont les mêmes partout en Europe ?
Le cas général en France, 5 mois de septembre à fin janvier, se retrouve à peu près partout, mais il n'y a qu'en France et en Allemagne que l'on peut chasser toute la semaine. En Italie, mais aussi dans les provinces espagnoles, la chasse n'est souvent possible que 3 jours par semaine. En Angleterre et aux Pays-Bas, on ne peut chasser ni les dimanches, ni certains jours fériés.
Même question pour ce qui est des espèces protégées. Y a-t-il un alignement des pays sur les réglementations?
Non, car les pays appliquent très diversement la directive oiseaux de l'Union. Pour ne prendre que les volatiles, l'Allemagne autorise la chasse de 27 espèces, l'Italie et l'Espagne de 34 espèces, le Royaume-Uni de 45 espèces. Or, la France, qui n'abrite pas plus d'espèces que ses voisins, permet d'en chasser 68. Et ce qui révolte les défenseurs de la biodiversité, c'est que sur ce nombre, 20 espèces sont menacées de disparition.
La France serait donc le mauvais élève de la chasse durable.
Oui, on peut le dire, même si des progrès ont été faits. En France, la chasse est longue, les espèces chassables nombreuses et la formation des chasseurs assez légère. Mais la chasse est une activité populaire, considérée en quelque sorte comme un droit hérité de la Révolution, puisque sous l'Ancien Régime, la chasse au grand gibier était réservée aux nobles. Pourtant, malgré une opinion hostile, la chasse à court est toujours autorisée en France. Ce n'est plus le cas en Allemagne depuis 1953 et en Angleterre depuis 2005. Bien qu'outre-Manche, 550 chasses au renard illégales aient été repérées depuis un an. Comme quoi, les traditions ont la vie dure.
Merci Daniel Vigneron pour ces explications et à la semaine prochaine.
À bientôt Alexis.
Aujourd'hui, Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. À demain.